Bonjour Alain,
Bonjour Harry.
je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième séance sur les vertus théologales. La semaine dernière, nous avons étudié la foi et le lien entre la foi et l'intelligence. La semaine d'avant, nous avions étudié ce qu'était la vertu et notamment ce qu'étaient les vertus théologales. Moi, j'ai compris que les vertus théologales avaient pour objectif d'accéder à la vérité. Et j'ai compris que la foi avait pour objectif de rendre intelligibles des concepts dogmatiques et d'en faire mien. Est-ce que j'ai bien tout compris?
Oui, absolument.
Bon.
C'est bien comme ça que ça fonctionne.
D'accord. Mais alors, par contre, la semaine dernière, tu as posé une question à Bénédicte. Quelle est la différence entre l'espoir et l'espérance? Et je t'avoue que je n'en sais rien.
Ça, c'est une perche tendue que je vais saisir. Le français est d'ailleurs une des rares langues qui a deux mots, hein, pour désigner la même chose. En général, c'est le même mot qui sert pour l'espoir et l'espérance. La grande différence. C'est la même, une différence tout à fait semblable à celle qui existe entre la peur et l'angoisse. La peur a un objet, j'ai peur du loup. L'angoisse n'a pas d'objet. Je m'angoisse et je ne sais pas pourquoi. Dans le cas de l'espérance et de l'espoir, c'est pareil. L'espoir, il y a un objet de l'espoir. J'espère que le confinement se terminera bientôt. J'espère réussir tel examen. J'espère que mes enfants se porteront bien. Enfin voilà. Il y a un objet et cet objet peut connaître des tensions extrêmes. Nous, ce que nous connaissons, c'est le plus bel exemple, c'est celui du résultat des concours et examens universitaires. C'est le petit déjeuner avant les résultats, quand je ne sais pas si je prends un petit déjeuner de reçu ou un petit déjeuner de collé. Et là, le temps prend une intensité, devient visqueux. J'ai une espèce de vertige, exactement comme si j'étais au bord d'un précipice, et je ne suis plus dans mon état normal. Après, il y aura l'effondrement de la déception ou au contraire l'allégresse de la réussite. Mais c'est ça l'espoir. Il est lié à un résultat. Alors que l'espérance, au contraire, n'a pas d'objet. L'espérance est une pure ouverture à ce qui vient. Je m'attends à ce que des choses se passent. Je m'attends à ce qu'il y ait des événements. Et alors, je peux m'attendre à ce qu'il y ait des événements dans l'angoisse. Je peux m'attendre à ce qu'il y ait des événements dans la crainte de ce qui va venir. Et ça, on est proche du désespoir ou de la dépression, qui d'ailleurs ont des modalités fort proches dans leur fonctionnement. Le propre de l'espérance, c'est de s'ouvrir à ce qui vient en disant ce qui vient est au minimum intéressant. Peut-être bon et bénéfique, mais au minimum, c'est intéressant. Et donc, alors que l'espoir peut être déçu, l'espérance ne peut pas être déçue, parce qu'elle est l'ouverture à ce qui vient, et donc elle constitue, elle permet à ce qui vient d'apparaître. C'est sur fond d'espérance ou sur fond de désespoir que les événements m'arrivent. Mais je ne sais pas quels événements vont venir. Voilà, je crois que c'est ça la grande différence entre l'espérance et l'espoir. Et avec cette caractéristique quand même commune aux deux, les deux considèrent que c'est le futur immédiat qui est le temps le plus réel. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui arrive?
Alors justement, si on parle du futur immédiat, nous sommes quand même dans une période où on commence à voir les illuminations de Noël. J'ai l'espoir de pouvoir retrouver ma famille pendant cette période. Noël qui est l'arrivée du Fils de Dieu et la fête de l'espérance. Pourquoi Noël et la fête de l'espérance?
Je crois qu'elle est la fête de l'espérance en se fondant d'abord sur ce que disent les prophètes et à cause de la date, et les deux sont liés. Une lumière est survenue dans les ténèbres. Et donc, la caractéristique de Noël, c'est que c'est proche du solstice d'hiver, c'est-à-dire c'est la nuit. Ça, Noël se passe dans la nuit et il apparaît que dans la nuit même, il y a une ouverture vers un futur. On peut vraiment dire intéressant, puisqu'il s'agit de celui de l'incarnation. Donc c'est ça le lien, je pense, hein, entre Noël et l'espérance, c'est que rien n'est encore joué. En termes d'événements, c'est d'une fragilité extraordinaire. Mais malgré cette fragilité, malgré la suite d'événements qui va se produire de telle sorte que quand même c'est pas évident que le salut soit en train d'arriver, il y a cette réorientation du temps qui, de nocturne, devient promesse de l'aube, promesse de la levée du jour.
Bon, la semaine dernière, on a vu que la foi jouait sur l'intelligence et on a vu qu'il était important de distinguer chez l'homme la mémoire, l'intelligence et la volonté. Donc, on a compris que l'espérance jouait sur la mémoire. Quelle est l'interaction entre la mémoire et l'espérance ?
Ben, ce n'est pas évident du tout. Que l'entendement soit éclairé par la foi, ça paraît évident. Que la charité soit la vertu du désir et de l'amour, de la volonté, c'est évident. Alors, on a un peu quand même l'impression qu'il restait, qu'il y avait trois vertus théologales, il y avait trois puissances de l'homme chez saint Augustin, un peu comme si on disait à l'espérance, ah ben toi, tu vas te mettre sur la mémoire, puisque les deux autres places sont prises. Il y a un peu de ça. Jean de la Croix va donner à la mémoire, va reprendre la mémoire telle qu'elle est chez saint Augustin, et il va, si j'ose dire, l'améliorer. Il va lui donner des propriétés supplémentaires. La mémoire chez Augustin, c'est essentiellement, fondamentalement, la pensée indéterminée. Pensée indéterminée que l'intelligence détermine. Je passe de l'ouverture à la vérité à la constitution de la vérité. Alors là, on voit déjà le lien entre espérance et mémoire, parce que ma mémoire, la mémoire, ce lieu de la pensée indéterminée, il est ouverture vers un futur qu'il ne possède pas encore, mais qui lui viendra quand la pensée se déterminera. Donc il y a bien un lien entre la mémoire comme faculté de penser et l'espérance comme ouverture à ce qui vient.
Est-ce qu'on peut faire une analogie avec Noël ? La mémoire, ma mémoire, c'est l'univers un peu dans la nuit, et cette espérance, c'est cette petite lumière. C'est ce vers quoi ma mémoire va pour que la lumière prenne de plus en plus de champ.
C'est parfaitement exact.
Avant de parler du désespoir, qu'est-ce que l'homme doit faire pour pouvoir conserver cette lumière ou pour pouvoir avoir la lumière ? Est-ce que l'homme a un acte à faire, à accomplir pour être dans la vertu de l'espérance ?
Je crois que ce n'est pas un acte, c'est un non-acte. Rester en attente, rester à l'affût. Il n'y a pas d'autre chose à faire dans l'espérance que de se mettre à espérer, c'est-à-dire de s'orienter dans le temps en se disant « ce qui vient, je l'accepte. Ce qui vient, je lui fais totalement confiance. » Alors du coup, il y a un lien évident et insécable entre la foi et l'espérance. On ne peut pas avoir d'espérance sans foi. On ne peut pas avoir d'espérance sans croire en quelque chose. Et réciproquement, on ne peut pas croire en quelque chose avec cette force infinie de la foi si on ne s'attend pas à ce que ça produise des fruits, à ce qu'il se passe quelque chose.
À l'inverse, l'opposé de l'espérance, c'est le désespoir.
L'opposé de l'espérance, c'est le désespoir. C'est-à-dire la certitude, l'intuition, que ce qui va venir est catastrophique. Le désespoir a un effet totalement négatif sur la mémoire, puisqu'il prive la mémoire de ses possibilités de faire surgir quelque chose qui ressemble à la vérité, qui ressemble à la joie, qui ressemble à un épanouissement, à la possibilité de vivre, tout simplement. Le désespoir est une instance qui peut me mettre devant la réalité, pour lui reconnaître ça, mais c'est dans la nuit du désespoir que l'espérance peut se lever, en disant, eh bien non, je vais attendre autre chose. Je vais attendre autre chose que ce que le désespoir me propose. Dans la métaphore de la lumière, il y a quelque chose de très parlant, c'est que si tu as une lumière dans une pièce plongée dans l'obscurité, si tu ouvres la porte, ce n'est pas la nuit qui se précipite à l'intérieur de la pièce, c'est la lumière qui sort. Donc il y a une espèce de supériorité constitutive de la lumière par rapport à la nuit. Et de la même façon, il y a une espèce de supériorité constitutive de l'espérance sur le désespoir. L'espérance, qui pourrait paraître naïve, puisqu'elle se met à croire en des choses que le désespoir a déjà refoulées dans les ténèbres, l'espérance qui peut paraître naïve est en fait infiniment plus intelligente que le désespoir.
Est-ce que la personne qui n'a plus du tout d'espérance est une personne qui est morte ?
une personne qui n'a plus d'espérance est une personne morte, et d'une mort atroce, si j'ose dire. Celui qui se suicide, il a encore une espérance. En général, on se suicide pour montrer aux autres le mal qu'ils nous ont fait, par exemple. L'absence totale d'espoir, ça ne mènerait même pas au suicide, ça mènerait à une prostration complète, un repliement sur soi complet. Le suicide comporte encore en lui-même quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance, sinon l'acte même serait impossible.
La semaine prochaine, nous voyons la troisième pièce du Pulse. Est-ce que vous auriez une question ?
Oui, il y a une question qui est en fait une perplexité. C'est que la troisième vertu théologale, c'est la charité. Quand on dit charité, on pense aux œuvres caritatives, c'est-à-dire le don, le souci des autres, l'aide apportée aux autres, sans retour. Mais la charité, la partie anthropologique qui lui correspond, c'est le désir. Et le désir, lui, il est féroce, il est combatif. Quel est le lien de parenté entre cet amour qui peut être hyper actif pour moi et la charité qui voudrait être hyper active pour les autres?
Merci beaucoup.
Rendez-vous la semaine prochaine.